sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons une peinture de Velázquez et pas n'importe laquelle, la Vénus au miroir, huile sur toile d'un mètre 22 par 1m77, célébrissime, réalisée entre 1647 et 1651. Diego Velázquez, peintre de cour préféré du roi Philippe IV d'Espagne, a su renouveler et moderniser la création de son temps et plus particulièrement l'art du portrait, dont il devint très vite le maître incontesté. Longtemps resté dans le secret des collections royales espagnoles, l'art de Velázquez est redécouvert au XIXe siècle, lors de l'ouverture du Prado au public. En France, des artistes tels que Manet, qui le dénomma le peintre des peintres, les impressionnistes, puis Picasso ou encore Dali, vont se passionner pour son génie pictural. Et c'est en 1903 que parut le superbe texte d'Élie Faure, je crois qu'il avait moins de 25 ans, l'un des plus beaux jamais écrits sur l'artiste, et dont Jean-Luc Godard ferait lire un extrait à Jean-Paul Belmondo dans une baignoire, au cours d'une scène d'anthologie de Pierrot le Fou en 1965. Élie Faure, donc, notre regardeur.
Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes. Quelques pitres monstrueux vêtus en prince, qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l'autodafé, le silence. Écoute ça, petite fille. Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurlent autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil est un tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. C'est beau ça, hein, petite fille ?
Pour évoquer cette extraordinaire Vénus au miroir, je reçois l'artiste, le grand artiste Jean-Michel Alberola, qui, il y a quelques années, je dirais 25 ans peut-être, évoquait cette question de la vue en travaillant sur Diane et Actéon. Et au fond, ce jeu de la vue de Diane et Actéon, et nous sommes là dans la peinture vénitienne plutôt, et celle de Velázquez, c'est pas si loin, non ? Qu'en pensez-vous, Jean-Michel Alberola ?
Disons que Velázquez va faire un tour dans la peinture vénitienne, mais après il règle très vite le problème hein, en le ramenant en Espagne, quoi. Il s'écarte de tout ce qui se passe autour, quoi, y compris Caravage, tout ça. Donc il veut bien aller voir, quoi, mais en même temps, ce qui le préoccupe, c'est autre chose, quoi. Vraiment autre chose que tout ce qui se passe à l'époque.
Et pour appuyer notre soubassement historique, parfois fragile, j'ai la chance d'avoir avec moi, et ce n'est pas la première fois, Guillaume Kienz. Bonjour Guillaume, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Vous êtes le commissaire de l'exposition de Velázquez, qui se trouve au Grand Palais en ce moment, et ceci jusqu'au 13 juillet prochain. Vous aviez auparavant travaillé sur Ribera, on en avait parlé. Vous aviez dirigé les journées de recherche sur Goya, rien que ça. Vous préparez quelques expositions sur la peinture espagnole, la sculpture portugaise, non ?
La peinture, en fait, la peinture portugaise, je m'intéresse beaucoup au Portugal en ce moment, et je m'intéresse particulièrement, oui, à la peinture portugaise et à la sculpture espagnole de la Renaissance.
Merci d'être avec nous pour évoquer cette Vénus au miroir. Une femme allongée, nue et de dos sur un lit s'observe dans un miroir tenu par un cupidon agenouillé sur les draps. Un rideau rouge bouche la perspective du tableau dans la partie gauche et des voiles à sa droite, rien. La Vénus allongée tient nonchalamment sa tête dans sa main, accoudée à l'extrémité droite, et le dos, vers la gauche, nu, déploie sa carnation ivoire sur le drapé bleu de Prusse du couvre-lit, poursuivant sa descente en virgule jusqu'à la remontée des hanches, que l'artiste a voluptueusement placée en plein centre de la composition. Le poids des fesses fléchit tout le tableau qui s'abandonne à cette pesanteur et en souligne la volupté en répétant dans les plis des tissus les ondes provoquées par cette courbe encourageante. Toute la composition s'abaisse en son centre comme une paupière qui tombe. Le regard est en effet l'autre sujet de l'œuvre. Il est même la célébration de l'appétit de notre vue. La Vénus que l'on ne voit que de dos se regarde et Cupidon regarde Vénus se contempler dans son miroir. Nous voyons son reflet qui nous trompe et nous dérobe son corps que nous pourrions désirer. Les liens roses de l'amour ou du désir que Cupidon enroule sur son poignet sont délacés, comme les regards qui devraient pourtant se croiser et qui jamais ne se rencontrent. Ce jeu infini est célébré par une touche enlevée qui déborde son sujet, une touche joyeuse et libre de ce qu'elle détourne. C'est-à-dire moins la mise en scène d'une déesse de l'amour que le plaisir différé et troublant de la peinture même.
Indignation à la National Gallery. Le célèbre Velázquez, communément appelé la Vénus au miroir, qui est présentée à la National Gallery depuis 1906, a été mutilé hier matin par la suffragette Mary Richardson, militante activiste notoire. Elle a attaqué le tableau avec un petit hachoir à la lame longue et aiguisée, semblable à celle des instruments utilisés par les bouchers, et en quelques secondes, elle lui a infligé des blessures aussi graves qu'irréparables. Suite à cet outrage, les portes de la National Gallery resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. The Times, 11 mars 1914.
Michel Alberola, nous sommes en train de regarder ensemble l'un des plus célèbres et des plus rares nus de la peinture espagnole. Il était outrageant pour cette suffragette dont nous venons d'entendre parler en 1914. Est-il important pour nous aujourd'hui ?
Enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'enlever de l'œuvre entière de Velázquez, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a un point de vue qui est un peu particulier, qui est un petit peu, qui va un peu. Donc il a de temps en temps, donc on va dire que Velázquez est comme ça sur une sorte de chemin qu'il suit. Donc c'est les portraits de par sa fonction, de par son intérêt, etc. Et de temps en temps, il fait des sorties. Donc il y aura la Vénus, il y aura les Ménines, il y aura les Fileuses, il y aura quelques tableaux comme ça qui vont peut-être aider à contrario tout le travail qu'il fait sur le portrait, sur les individus en pied. C'est comme si la Vénus au miroir était là pour dire, dans la totalité du travail de Velázquez, voilà, je peux m'aérer aussi en faisant des tableaux comme ça. Parce que Velázquez, de toute façon, c'est une question d'aération tout le long de sa vie, quoi.
Vous voulez dire que l'air et l'environnement de l'air, comme matière presque, est important.
Élie Faure en parle, de l'air qui est autour des personnes qu'il représente. L'air est à l'intérieur des Ménines, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Velázquez est l'exemple absolu du peintre empêché.
Qu'est-ce que ça veut dire,
le peintre empêché? C'est-à-dire qu'il a des fonctions à l'intérieur de la cour du roi. On va dire qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc on va dire que il y a très peu de tableaux de Velázquez parce qu'il est demandé un peu partout. Il va en Italie, il s'occupe de la rencontre dans le sud-ouest entre le roi d'Espagne et
le roi XIV.
Voilà. Et donc il a une fonction de maître d'œuvre, etc. Des travaux, il s'occupe, etc. Donc il a très peu de temps pour peindre. Et donc il faut considérer que la peinture de Velázquez est une sorte d'aération absolue par rapport à cette fonction qui est très lourde, qu'il fait avec plus ou moins de bonheur ou d'ennui ou je sais pas quoi. De toute façon, tout est possible chez les Espagnols. Quand il peint, il fait passer cette aération à l'intérieur de la touche, à l'intérieur de la représentation, à l'intérieur du choix des sujets, etc. C'est-à-dire que c'est une peinture qui est très, très, très libre parce qu'elle est contrainte. Et donc, ça, c'est une des premières, c'est la force de Velázquez, quoi. C'est d'arriver à se sortir de sa fonction sociale et de rentrer à l'intérieur de cette sorte de magie, comme ça. Parce que quand on voit l'exposition de Velázquez, il y a quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut voir, quoi. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui existe toujours, quoi, et qui est une vibration de l'individu. Il y a quelque chose de très, très étrange aussi, un peu hallucinatoire, comme ça, chez lui. Mais c'est parce qu'il est un peintre empêché.
C'est intéressant, cette notion de peintre empêché. Guillaume Kienz, vous qui êtes le commissaire de l'exposition.
Alors moi, je suis surtout très séduit par cette idée d'aération, parce qu'effectivement, l'air a une place primordiale, si ce n'est la première place dans la peinture de Velázquez. C'est cet air qui, comme disait Manet, circule autour des formes. C'est cet air qu'il va découvrir en Italie pour la première fois, qui fait son apparition, son entrée dans sa peinture en Italie en 1630. C'est cet air aussi qui, effectivement, doit manquer à la cour, en raison de l'étiquette extrêmement lourde, en raison de l'ambiance très certainement oppressante. Donc,
vous dites 1630, parce que nos auditeurs ne savent pas tous d'où ça vient, 1630, c'est son voyage en Italie.
C'est son premier voyage
en Italie. C'est la découverte de Venise, au fond, non ?
C'est la découverte de Venise et plus encore de Rome, parce que Rome en 1630, c'est l'éclosion du paysage, le paysage de Poussin, le paysage de Duguay, le paysage de Claude Lorrain. Donc c'est vraiment là qu'il n'y a pas de tradition de paysage dans la peinture espagnole. C'est vraiment là qu'il a cette prise de conscience du paysage, un genre qu'il avait toujours négligé, y compris dans ses arrière-plans.
Ça lui, a valu une humiliation lorsque il y a eu ce fameux portrait de Rubens qui a été accroché à la place de son portrait du roi.
Ça lui a valu une petite pique, une petite vexation.
Et il était vexé parce que Rubens avait justement cet arrière-plan paysager magnifique qui n'existait pas dans la peinture de Velázquez à ce moment-là.
Alors, je suppose qu'il était vexé. On n'a pas de trace documentaire qui dit qu'il était vexé.
L'aurais été à sa place, en fait.
Et pareillement. Mais j'imagine tout à fait. Velázquez avait, à partir de 1623, le monopole des portraits de Philippe IV. Il peint un portrait équestre de Philippe IV en 1625. Le portrait plaît. Il est placé à la place d'honneur du Salon Neuf, la pièce la plus importante du Palais Royal. Rubens arrive en 1628. Rubens, c'est l'autre artiste de cœur de Philippe IV, c'est le rival de Velázquez dans le cœur de Philippe IV, bien plus âgé que Velázquez. Il peint un portrait équestre de Philippe IV, il rompt d'abord le monopole de Velázquez, et ce portrait équestre plaît, est accroché à la place du tableau de Velázquez, on remise Velázquez en réserve, et qu'est-ce qu'on loue ? On loue la qualité du paysage de Rubens. Et à mon avis, c'est mon interprétation, Velázquez se rend compte qu'il a complètement oublié ce qui, dans les Flandres, est un genre très établi, le genre du paysage, mais qui, en Espagne, n'a pas de tradition propre.
Jean-Michel Elberla, comment réagissez-vous à ce propos ?
C'est-à-dire, est-ce que les paysages du Nord ne sont pas les mêmes que le paysage du Sud, quoi ? On va dire que l'Espagne... Parce qu'il y a quand même très très peu de paysages dans la peinture de Velázquez. Il y en a assez peu. Des portraits. Il y a ce qu'on retient de Velázquez. Enfin, je me souviens de l'expo de Madrid là, il y a 25 ans. Il y en a quand même très très peu, quoi. Il y a les deux petits paysages italiens, la Villa Médicis. Et après, il y a sur les Breda aussi.
La réédition de Breda, comme ça.
Mais il y en a quand même assez peu dans la masse des tableaux de Velázquez. On dit que c'est peut-être pas ça qui l'intéresse, quoi.
Je pense au contraire que c'est vraiment ça, non pas qu'il l'intéresse, mais qu'il se rend compte qu'il a négligé les potentialités expressives et picturales de la représentation de la nature sous la forme du paysage. C'est très clair de voir que dans ses débuts à Séville, ces tableaux ont des fonds. Ces tableaux sortent vers l'avant, ne sont pas creusés vers l'arrière. Et cette prise de conscience du paysage, il s'en rend compte, je pense très sincèrement, à Rome. Ce qui ne veut pas dire qu'il devient un peintre de paysage. Mmh. Une fois encore, il n'y a pas de tradition de paysage en Espagne. Donc non, il n'y a aucun intérêt pour lui de peindre des paysages. En revanche, un tableau comme le Saint-Paul-Ermite et Saint-Antoine Abbé au désert, c'est l'un des plus beaux paysages de l'histoire de la peinture.
Mais il y en a quand même assez peu, quoi, chez Velázquez, des paysages.
Il y en a assez peu, mais d'un coup, il sait peindre le paysage. Ouais. Derrière le portrait équestre, on le voit. Derrière le Philippe IV en chasseur, on le voit.
Oui, parce que Jean-Michel, il est effectivement rapidement virtuose dès qu'il essaye. Et donc,
Il essaie de. Quand on voit le tableau qu'il fait à 18 ans, là, l'Immaculée Conception, c'est un tableau foudroyant, quoi.
Oui.
On se dit, mais comment est-ce possible, quoi, par rapport aux tableaux qui sont accrochés.
Et pourtant, c'était un sujet qui était incroyablement répandu à l'époque. On est en plein moment du débat sur le dogme de l'Immaculée Conception.
C'est le boom, oui. C'est le sujet.
C'est le sujet. Tous les artistes en emparent. Et Velázquez a... Quel âge disiez-vous, Jean-Michel,
18 ans.
Velázquez devient peintre indépendant. Il peut peindre des images religieuses. Il n'en avait pas le droit avant d'avoir passé l'examen de la corporation. Et cette année correspond à une prise de position de l'Église catholique. Paul V interdit la critique en public de l'Immaculée Conception. Alors évidemment, ça, dans le camp des défenseurs de l'Immaculée Conception, ça a créé une émulation et les images se sont multipliées. Ça correspond à la première année d'activité de Velázquez comme peintre indépendant.
Est-ce que c'est la même année qu'il va réaliser cette vision de Saint-Jean à Patmos, voyant comme un élément de sa pensée l'Immaculée Conception?
C'est vraisemblablement... Alors, il faut savoir que, comme disait Sterling, l'historien de l'art est un chasseur dans la nuit. Hein. Tout ce que je propose sont des hypothèses qui ont été émises. L'Immaculée Conception et le Saint-Jean à Patmos, l'Immaculée Conception de Londres, pas celle de la fondation Focus à Bengoa, dont je parlais à l'instant, de 1617, mais l'Immaculée Conception de Londres qui... fonctionne avec le Saint-Jean à Patmos, sont des tableaux qu'on date plutôt vers 1618-1619, donc un petit peu plus tard.
Alors nous allons revenir à notre merveilleuse Vénus au miroir, et je vous propose, si vous le voulez bien, d'écouter à présent un autre extrait du texte que consacre Elifor à Velázquez à propos justement de l'œuvre que nous regardons aujourd'hui, la Vénus au miroir.
Vénus au miroir, toile à peu près inconnue. Est le seul nu féminin qu'on trouve dans son œuvre, et peut-être, si l'on en excepte Goya, dans toute la peinture espagnole. L'Espagne catholique et prude n'admettait pas que la chair condamnée fût illustrée par le pinceau. Il fallut donc probablement, pour que Velázquez entreprît cette toile, l'intervention personnelle du roi. Mais avec quelle joie le grand artiste dut voir tressaillir sous ses yeux la matière humaine vivante, allongée dans les harmonies, le torse nerveux, les jambes fines, laissait deviner à demi l'admirable visage brun dans l'eau nocturne d'un miroir. Velázquez, Elifor, 1903.
Jean-Michel, je me souviens d'une petite carte que vous aviez faite et qui m'a fait penser à cette Vénus au miroir de Velázquez que nous regardons en ce moment. Et c'est une petite carte sur laquelle vous aviez mis un extrait de Racine, un vers décomposé qui disait « Il n'eut plus d'autre désir que celui de sa vue ». On a l'impression que c'est une allégorie de la vue que nous présente Velázquez avec la Vénus au miroir. Qu'en pensez-vous ?
Oui, enfin, ce qui est intéressant dans la Vénus au miroir, c'est le miroir, justement, où il y a quand même Velázquez, il y a dans certains tableaux. Donc, il y a un premier plan net, arrière-plan flou. Dans Les Fileuses, c'est ça. Dans Les Ménines, il y a ça aussi. Dans la Vénus au miroir, c'est exactement le même principe que le roi et la reine dans le miroir aussi. Donc, c'est comme s'il faisait une sorte de mise au point, comme ça. Donc, on peut dire que Velázquez reprend... je ne sais pas combien de siècles avant l'invention de la photographie, du focus, quoi, de la mise au point. Et donc, ce qui est très, très intéressant dans la Vénus au miroir, c'est le visage qui est tenu par le Cupidon et qui est flou. Alors, et donc, ça c'est quand même c'est une intelligence de l'espace visible qui est extraordinaire. Ça n'existe pas.
C'est tout à fait justement observé. Dès le début, dès Séville, dès la Mulata, par exemple, avec le Christ à Emmaüs à l'arrière, on a ce flou, ce net. Et il ne faut pas oublier que Velázquez naît à Séville. Séville, c'est une grande capitale européenne. Séville, c'est un port qui est ouvert sur le monde. Séville, c'est un endroit où on perfectionne la cartographie. Pour perfectionner la cartographie, on perfectionne l'observation des astres. C'est un grand centre de l'optique. Et justement, la question du flou, une lunette astronomique, on est confronté directement à la question de la mise au point. Et je pense que dans cette ville qui bouillonnait d'idées, qui échangeait des débats, qui mélangeait débats théologiques avec débats scientifiques et débats littéraires, Velázquez a dû être extrêmement stimulé par ça. Et je suis intimement persuadé que ces progrès de l'optique entraîne les artistes à avoir un nouveau regard sur la réalité, parce que la réalité est observée à travers des instruments qui sont nouveaux, et cela va très fortement conditionner la peinture de Velázquez, et plutôt la conception que Velázquez se fait d'un tableau et du spectateur. C'est l'un des peintres qui, pour moi, a le plus est le plus concerné par celui qui regarde sa peinture. Il joue sans cesse avec le spectateur.
Oui, mais en même temps, je suis d'accord avec vous sur le, on va dire, sur l'ambiance générale des découvertes scientifiques et picturales, etc. Mais en même temps, si vous voulez, si je regarde le micro, vous êtes flou. Vous comprenez ? C'est-à-dire que Velázquez ne peint que ce qu'il voit, que ce que sa vue peut accomplir, quoi. C'est-à-dire qu'il ne triche jamais. Il n'y a pas de clair-obscur, il n'y a pas toutes ces conneries qui sont autour de lui, comme ça, qui se font, comme ça.
Ce n'est pas des conneries.
Non, mais c'est bon, mais tout ça, c'est bon. Mais Velázquez se débarrasse de tout ça, se débarrasse de tous ces trucs-là, assez vite. C'est simplement ce qu'il voit.
C'est curieux, moi je trouve que le miroir reflète un visage qui me paraît être un mensonge par rapport à la grâce de la jeune femme. J'ai l'impression d'avoir deux âges différents
Une Vénus au miroir, c'est toujours, la plupart du temps dans la peinture, c'est une allégorie de la vanité, du temps qui passe, de la beauté qui est éphémère, etc. Donc c'est déjà une image qui se brouille, c'est l'image interdite peut-être de la beauté parfaite. Moi, c'est un tableau que j'ai relié à, ça peut paraître très iconoclaste, à une autre œuvre très importante de Velázquez, qui est l'âme chrétienne contemplant le dos du Christ après la flagellation.
C'est pas du tout iconoclaste, parce que dans ce tableau-là, Guillaume Gaines, effectivement, l'essentiel du sujet est dérobé tout également. Peut-être vous pouvez le décrire.
Alors, on y voit le Christ, après la flagellation, tombé à terre, encore retenu par ses mains à une ligne, à une corde qui, comme une forte diagonale, le relie à la colonne à laquelle il était attaché. Et il y a un petit enfant, on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, ça n'a pas d'importance, cela représente l'âme chrétienne, guidée par l'ange gardien, qui regarde le dos du Christ, un dos du Christ qui nous est interdit, que l'on ne peut pas voir, que l'on pourrait voir si on était de l'autre côté de la scène. Donc là encore, Velázquez joue avec nous, et Velázquez nous empêche de voir le sujet du tableau. Et dans la Vénus, nous sommes empêcher de voir le sujet du tableau, qui est le visage de Vénus, ce visage qu'on veut voir. Et c'est là que c'est très subtil, parce qu'au fond, il nous dénude entièrement la Vénus, on la voit dans sa nudité, et pourtant, ça nous donne envie de voir son visage. C'est le contraire.
Pour le moins.
Vous disiez par rapport à l'aération des portraits, et j'y pense maintenant, c'est le contraire d'un portrait. C'est le corps qui est caché, et c'est le visage qui est net. Et là, il inverse complètement le rapport.
Oui, mais en même temps, ce que l'on voit, c'est le corps de Vénus.
Bien sûr.
Parce qu'on parle toujours du corps de Vénus. On n'a jamais parlé de la tête de Vénus. Il y a une espèce de littéralité, quoi. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il nous montre le corps de Vénus. Donc là, ça peut-être appartenir à la mythologie, mais le visage, c'est le visage d'une femme.
Mais surtout, il réussit.
Voilà, enfin, donc il quitte la mythologie.
Il réussit à nous frustrer de ne pas connaître le visage de Vénus. C'est-à-dire qu'au fond...
Mais j'aurais voulu même connaître plus que son visage. C'est quand même l'origine du monde qu'on aurait cherché à voir.
C'est drôle que vous disiez ça, parce que justement, dans l'exposition, l'idée de faire une alcôve pour la Vénus m'est venue du souvenir que j'avais de la présentation de l'origine du monde à l'exposition Courbet. Pour moi, effectivement, ce sont deux tableaux qui, en termes d'expérience de visite, fonctionnent de manière similaire.
Jean-Michel Alberola, le Manet a aimé ce tableau, peut-être ?
Oui, je crois qu'il a aimé...
Velázquez.
Il a aimé Velázquez.
Brutalement.
Enfin, ça m'est, évidemment, vous comprenez que ça m'est très difficile de parler... que de la Vénus, parce que ce que je retiens, mettons, de l'exposition, il y a une démonstration magistrale dans l'expo, c'est les portraits de Saint-Pierre. C'est là où on comprend la méthode Velázquez, ça c'est très très bien fait. Il y a trois peintures qui représentent Saint-Pierre, les deux premières sont faites, de gauche à droite, sont faites par deux autres peintres, et le troisième est le portrait de Saint-Pierre par Velázquez. Donc dans le premier Saint-Pierre a une clé qui fait, je ne sais pas combien, 50 cm de haut. Dans le deuxième, il y a les tentures, etc., les auréoles, etc., etc. On arrive au troisième Velázquez, c'est simplement un homme debout avec un trousseau de clés à ses pieds. Donc c'est le génie de Velázquez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui va encombrer. C'est pour ça que j'ai parlé peut-être un peu, tout à l'heure j'étais un peu violent en parlant de conneries. C'est-à-dire qu'il va enlever tout ce qui va encombrer la représentation. Il enlève, donc il laisse simplement, voilà, donc il dit je décide de peindre Saint-Pierre, donc je prends quelqu'un comme ça dans la rue, je lui mets une toge et puis je mets un trousseau de clés au pied, c'est Saint-Pierre. Et donc ça, c'est exactement le même travail que fait Pasolini quand il fait l'Évangile selon saint Matthieu, etc. C'est pareil que Pasolini, c'est le même casting, on va dire. Le même casting. Donc c'est une sorte de simplicité absolue de ce que peut être la représentation, que ce soit de Saint-Pierre, du roi, des mendiants, des ivrognes, etc. Il y a toujours c'est toujours ce que c'est, quoi. Ça ne va jamais au-delà, jamais. Jamais, y compris par les techniques même de la représentation, à savoir par la lumière. On ne peut pas dire que les tableaux de Velázquez sont éclairés. Il n'y a pas d'éclairage. C'est un éclairage général. Quand on voit les Titiens, quand on voit les Tintorets, quand on voit Rembrandt, quand on voit tout ça, c'est très éclairé tout ça. Velázquez, il n'y a pas d'éclairage. On ne peut pas dire, on ne sait pas d'où ça vient, quoi. On ne sait pas d'où ça vient. Et donc c'est toujours, tous les processus de représentation sont ramenés à la plus grande simplicité ou au plus grand naturel. C'est pour ça que quand Manet, donc on en revient à la question de tout à l'heure, quand Manet va à Madrid pour voir les Goya, c'est pas pour voir les Velázquez, c'est d'abord pour voir les Goya. Et quand il tombe sur Velázquez, il comprend bien que là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est ce que Manet, on va dire qu'un des continuateurs de Velázquez, c'est Manet, parce qu'il va représenter les choses telles qu'elles sont, quoi.
Alors, telles qu'elles sont, mais avec des stratagèmes, hein, malgré tout, il y en a de nombreux à décoder dans beaucoup des tableaux de Velázquez, y compris dans la Vénus au miroir, et évidemment beaucoup plus encore, ou sinon beaucoup plus d'une façon plus évidente dans les Ménines. Alors, je vous propose d'écouter maintenant un grand classique, le grand texte que consacre Michel Foucault à Velázquez, s'appuyant sur le tableau des Ménines pour introduire sa réflexion métaphysique dans Les mots et les choses, ce livre fameux publié en 1966.
Reflet qui montre naïvement et dans l'ombre ce que tout le monde regarde au premier plan. Il restitue, comme par enchantement, ce qui manque à chaque regard. À celui du peintre, le modèle que recopie là-bas sur le tableau son double représenté. À celui du roi, son portrait qui s'achève sur ce versant de la toile qu'il ne peut percevoir d'où il est. À celui du spectateur, le centre réel de la scène dont il a pris la place comme par effraction. Mais peut-être cette générosité du miroir est-elle feinte? Peut-être cache-t-il autant et plus qu'il ne manifeste? La place où trône le roi avec son épouse est aussi bien celle de l'artiste et celle du spectateur. Au fond du miroir pourrait apparaître, devrait apparaître, le visage anonyme du passant et celui de Velázquez. Car la fonction de ce reflet est d'attirer à l'intérieur du tableau ce qui lui est intimement étranger. Le regard qu'il a organisé et celui pour lequel il se déploie. Michel Foucault, Les mots et les choses.
Vous êtes toujours sur France Culture et vous regardez avec moi cet incroyable tableau de Velázquez, la Vénus au miroir. Et à ce propos-là, nous rentrons dans les grandes questions des stratagèmes de Velázquez. Et au moment où Jean-Michel Berola nous parlait au fond de l'incroyable simplicité de certaines des postures et des castings de Velázquez, je voyais Guillaume Kienz, le commissaire de l'exposition Velázquez, qui manifestait un léger retrait sur cette question.
C'est-à-dire que je crois que Velázquez est un peintre de l'évidence. C'est-à-dire que tout ce qu'il peint, on le comprend à peu près, on en comprend les éléments. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un peintre des stratagèmes, mais c'est un peintre des stratégies. C'est que parce qu'il a une ambition pour sa peinture, et sa peinture est construite selon des stratégies qu'il a encore pour moi... témoigne d'une grande prise en compte du regard du spectateur, du roi peut-être, de quelqu'un d'autre, ça n'a au fond pas grande importance. Ce regard qui est à chaque fois tenu en échec, c'est pour ça que le texte de Foucault qu'on vient d'entendre est magnifique, mais se trompe, le miroir à l'arrière des Ménines ne reflète pas la face du tableau. Le miroir reflète la présence du roi et de la reine qui sont derrière le spectateur, et le spectateur se trouve d'un coup enfermé dans un espace pictural qui virtuellement sort des limites matériel de la peinture. C'est ça, pour moi, Velázquez. C'est ce qu'on voit aussi dans la Vénus au miroir. Je trouve que c'est vraiment ça qui est absolument fascinant, parce que Velázquez n'aurait jamais révélé la face du tableau qu'il peint, de même qu'il ne nous montre pas le dos décharné du Christ. Il nous force à nous l'imaginer, à nous l'inventer. Et c'est un processus antique. C'est comment est-ce que le peintre antique Timanthe doit représenter la douleur d'Agamemnon après la mort d'Iphigénie. Comme il n'arrive pas à représenter la douleur d'Agamemnon, il s'essaye, il le fait grimaçant, ça ne rentre pas. Il décide de voiler. C'est Agamemnon qui se voile la face parce que la douleur est irreprésentable. Et d'une certaine manière, Velázquez se pose la question de la représentation du visible, du non-visible, du caché, de ce qu'il révèle. C'est lui qui choisit ce qu'il nous montre, ce qu'il ne nous montre pas, avec des moyens qui sont des moyens évidents et, comme le disait Jean-Michel Averola, avec une sobriété, une économie, je crois, là aussi économie, c'est le mot juste pour lui, parce que c'est à la fois un mot technique, un mot matériel, on parle d'un peintre économe, et c'est un mot visuel, c'est-à-dire que ses compositions sont extrêmement économes, il n'y a pas un mot trop chez Velázquez, parfois même, il ne termine pas ses phrases et c'est l'inachèvement
de la peinture
Velázquez.
C'est un point d'accord que vous avez avec Jean-Michel Bérolin, c'est qu'il a tout enlevé de ce qui était inutile.
Il s'est débarrassé.
Jean-Michel
ouais, juste, on peut, par rapport au portrait du roi et de la reine qui sont au fond du tableau des Ménines, on peut peut-être avancer juste l'idée, enfin j'ai toujours pensé en voyant les Ménines, c'est que nous sommes le roi et la reine. Ils ne sont pas derrière nous, nous sommes le roi et la reine. C'est-à-dire que si on réfléchit aux questions de la représentation, Velázquez, donc il a une très très grande intelligence du phénomène de la représentation ou de la représentation picturale, une intelligence absolue. Enfin, à mon avis, c'est un des peintres qui est allé le plus loin dans toutes les questions que posait le problème de la représentation de quelqu'un, d'un paysage ou d'une scène, etc. Et donc, il fait une sorte de théorie visible à l'intérieur des tableaux. Et donc, si, mettons, on dit, voilà, la représentation, c'est quelqu'un dans un espace qui va être vu par un regardeur. Donc, les Ménines, c'est une démonstration absolue. C'est-à-dire que nous sommes à la place du roi et de la reine. C'est-à-dire que la scène que l'on voit, c'est une scène dans laquelle nous sommes hors du tableau, mais nous allons au fond du tableau. Et donc, on parcourt l'espace qui est entre nous et le portrait du roi et de la reine. Et ça, c'est quand même, c'est d'une intelligence extraordinaire.
Ce que vous dites est vrai, mais je mettrai une légère nuance à ce que vous dites du regard du regardeur dans ce tableau, parce qu'effectivement, il n'est pas exactement au point du roi et de la reine, parce que je crois justement que c'est la célébration du regard royal qui est le seul qui voit tout, même en son absence. Car le roi, logiquement, dans ce tableau, voit tout, y compris le tableau qui est en train d'être peint, qu'il devine dans le miroir, alors que nous, regardeurs, nous avons forcément la dissimulation de ce tableau-là nous échappe. Le roi voit un plan de plus.
Mais je ne crois pas que le roi voit le tableau qui est en train de peindre Velázquez.
Il le voit dans le miroir.
Non, je crois que le tableau qui est en train de peindre Velázquez, c'est le tableau que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que je pense, ça c'est, on va dire que c'est le côté labyrinthique espagnol, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui est une espèce de mise en abîme double, quoi. C'est-à-dire que
je crois que vous avez raison, Velázquez est en train de peindre le tableau que nous sommes en train de voir avec cette précision que nous ne voyons pas tous le même tableau. Mmh. Et Velázquez est en train de peindre notre tableau que nous faisons des Ménines, oui, avec ses interprétations. C'est un tableau qui, évidemment, a été extrêmement, je ne parle pas du tableau qu'il peint, mais des Ménines, extrêmement discuté. Il y a une interprétation beaucoup plus historique qui est proposée maintenant, à laquelle personnellement j'adhère, mais qui fait encore débat, puisqu'on sait par la radiographie qu'a priori Velázquez et sa grande toile n'étaient pas prévues dans la première version des Ménines, qu'il y avait un jeune homme à sa place, un page, que le tableau avait très certainement une dimension dynastique, historique, proclamant l'infante Marguerite comme héritière de la couronne en l'absence d'héritier mâle. En cours d'exécution du tableau, la reine est enceinte, c'est un garçon, exit la petite princesse. Le tableau est problématique, il faut en faire quelque chose. Velázquez arrive dans la composition. Donc, c'est d'une certaine manière, ça ne veut pas du tout dire que Velázquez n'est pas capable de retourner complètement, de rebattre les cartes et de refaire quelque chose.
Oui, parce que le sujet historique que vous décrivez, qui semble être absolument avéré, n'est pas du même ordre de commentaire que le travail géométrique qu'il a construit pour l'exprimer.
Spatial.
Oui.
Alors, moi, c'est un tableau que j'aime beaucoup comparer avec une autre œuvre qui est en collection particulière en Angleterre et où on voit le prince Balthazar Carlos, mort en 1646, mais qui pendant presque 17 ans a été l'héritier de la monarchie, sur son poney, au premier plan. À côté de lui, le comte duc d'Olivares lui fait remettre une lance. Comme Marguerite dans Les Ménines, il est entouré de sa cour et de nains. Et à l'arrière, comme dans Les Ménines, il y a le roi et la reine tout au fond
sur un petit balcon.
Ouais. Spatialement, exactement la même construction. Et ce tableau est une proclamation dynastique. Et la grande subtilité de Velázquez, c'est de réussir à... Voilà, à détourner finalement ce tableau. On ne saura jamais qui a eu l'idée que Velázquez se représente là. Philippe IV est trop admirateur de Velázquez et trop amateur de peinture pour détruire un tableau comme ça. Il s'en rend bien compte. Mais bizarrement, le tableau est exposé dans son bureau privé et ne sort pas de son bureau privé.
Jean-Michel Birola, ce principe d'installation sur le balcon du roi et de la reine, puis ensuite dans le miroir, et puis le reflet de la Vénus, etc. Il y a un système, et puis on a la même chose au début de sa carrière quand il représente le repas d'Emmaüs au deuxième plan. C'est un système de coulisses. Est-ce que c'est un système hollandais? Comment voyez-vous ce jeu d'espace à coulisses? D'ailleurs, même les fileuses sont dans le même état d'esprit.
C'est la même histoire que le Quichotte de Cervantes. Hein.
Pourquoi?
C'est-à-dire que, je ne sais pas, enfin, quand on lit le Quichotte, il y a énormément d'histoires à l'intérieur de l'histoire qui s'annulent, qui s'inversent, etc.
C'est l'art de la digression, en fait.
Enfin, on retrouve ça chez Balthazar Gracian, c'est tout ça. Enfin, c'est toute la rhétorique espagnole, c'est ça, quoi. C'est Lope de Vega, tout ça. Ils sont tous en train de faire des. C'est pas ce qu'on voit, c'est autre chose. Et le autre chose, c'est ce qu'on voit. Donc c'est sans arrêt des allers-retours, sans arrêt. Ça va donner Borges, ça va donner des gens comme ça, quoi.
Guillaume Kienz.
Je suis exactement de votre avis. Je suis ravi que vous l'exprimiez parce que. Très bizarrement, la bibliothèque de Velázquez ne comporte pas d'ouvrages de théâtre. Et pourtant, sa peinture est pétrie d'un esprit qui est un esprit de théâtre, à la fois dans l'improvisation. Il ne dessine pas, il peint à la prima. Et dans ce jeu de coulisses, effectivement, Calderon, La vie est un songe, c'est ça. Quand Corneille, pétri de théâtre espagnol, fait l'illusion comique, c'est un tableau dans le tableau. Et d'ailleurs, tableau est un mot qu'on peut partager avec le monde du théâtre. Donc c'est exactement
le Quichotte, c'est ça.
Et le Quichotte,
on va dire que c'est l'esprit du temps.
Michel Berola.
On va dire que c'est ce qui se passe au même moment. Quoi. Il y a ça en astronomie, il y a des découvertes scientifiques, littéraires, il y a des choses qui se passent politiquement, etc. Donc on va dire que le siècle d'or espagnol est pétri de cette matière-là dans laquelle la réflexion va dans tous les sens. Quoi. Et Velázquez est au milieu de ça, même s'il y a très peu d'ouvrages de théâtre, il est quand même dans cet esprit-là parce qu'il parle. Quoi. Il rencontre des gens, il voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Quoi.
Et avec la peinture et les femmes,
Guillaume Kienz.
Le théâtre, c'est la grande passion de Philippe IV. Le théâtre à Madrid, c'est... qui est extrêmement important au temps de Velázquez. On sait même que Velázquez a participé au moins comme acteur, comme comédien, à une pièce de théâtre. Il est monté sur les, sur les planches.
Cette célébration de l'incarnation, c'est le Concile de Trente qui nous amènerait à accepter la réalité célébrée avec autant de matérialité, si je puis dire.
C'est compliqué parce que le Concile de Trente appelle à l'ordre, un rappel à la vraisemblance des représentations. Mais le Concile de Trente n'imaginait pas du tout arriver jusqu'à la Vénus au miroir en rappelant à la vraisemblance de la représentation. Les peintres ont pris au mot cet appel du Concile de Trente et là effectivement c'est la contrainte du retour au réel qui les a fait transcender cette contrainte.
Mais ça a été par exemple dans les bodégones par exemple, c'est quelque chose, cette sorte de célébration du réel même humble, c'est quelque chose qui est lié à l'état d'esprit de la contre-réforme par exemple.
Je pense que c'est lié, la contre-réforme elle ne crée pas quelque chose, elle s'inscrit au fond dans un souffle, elle est à un moment l'incarnation théologique, dogmatique comme on veut, je ne sais pas quel est le bon mot, d'un grand souffle de réel qui va souffler, pardon, et qu'on va retrouver dans différents autres aspects. Il faut plutôt voir tous ces éléments comme des cristallisations d'une sorte d'esprit du temps plutôt que comme des détonateurs. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, grande sainte espagnole, canonisation récente, je crois qu'elle est canonisée en 1610, donc Velázquez a 11 ans, Sainte Thérèse d'Avila dit « Le bon Dieu est partout, le bon Dieu se promène parmi des casseroles ». Donc je veux dire, là aussi, le réel s'invite à la table des peintres comme à la table de tout le monde.
Ça, c'est très espagnol.
Jean-Michel Alberola.
C'est
oui.
très espagnol, oui. C'est-à-dire, il y a... C'est-à-dire que... Enfin, depuis tout à l'heure, on dit que finalement que Velázquez va après son séjour à Rome, il va tout d'un coup il descend la peinture, donc il enlève de la peinture tous les artifices, etc., pour arriver à une chose extrêmement simple, y compris dans les machines de vision, quoi, comme les ménines ou les fileuses ou comme ça. C'est-à-dire, c'est très simple, l'histoire est très simple toujours.
C'est très simple, mais c'est très crypté. Mais
c'est quand même
En quoi crypté et simple peuvent aller ensemble,
ça ouais, peut, mais hein. C'est-à-dire que les ménines, pour moi, c'est un tableau magistral parce que lorsque nous sommes devant les ménines, on comprend très bien le phénomène de représentation, on comprend l'espace, on comprend l'échelle qui est à l'intérieur d'un espace gigantesque, etc. Le plafond occupe presque le tiers du tableau, quoi. On comprend et tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Il y a pas de. Après, on peut trouver des clés ou je sais pas quoi. Oui. Mais tout le monde voit bien que c'est un processus de construction très très sophistiqué. Tout le monde le voit. Tout le monde. Oui, c'est très accessible. C'est très accessible. C'est ça qui est quand même incroyable. C'est un peu une chose unique dans l'histoire de la peinture. Mais tout le monde comprend.
Je crois effectivement que c'est pas Guillaume crypté Kienz. Du tout. C'est pas du tout, du tout crypté.
Alors voilà, vous me soufflez, Guillaume Kienz, parce que dans votre livre remarquable sur Velázquez qui vient de sortir, vous évoquez à un moment donné une lecture des fileuses avec des codes
fileuses,
incroyables.
C'est pas pareil.
Et en
les
particulier, fileuses, la patte du chat.
Oui, il ne faut pas tout dire. Mais
les fileuses, c'est pas pareil.
Je suis d'accord, les fileuses, c'est pas pareil pour deux raisons. C'est pas pareil parce que d'abord, pour moi, plus que les Ménines, parce que les Ménines est un merveilleux tableau accidentel, ce qui n'est pas du tout infamant, mais les fileuses, c'est son testament artistique. Donc déjà, c'est quelque chose de particulier. Et ensuite, ce qu'il dit dans les fileuses est très simple. Ce qui est compliqué, c'est la simplicité. Ce qui est compliqué, c'est un peintre subtil, je n'aime pas le mot sophistiqué, subtil et construit. Comme un esprit, il faut pas oublier qu'il est courtisan aussi. Il a un esprit de courtisan. Le courtisan a une agilité. Voilà, il a une sorte d'agilité intellectuelle qui se voit dans sa peinture et une grande subtilité. Mais c'est ni de l'érudition, ni de la pédanterie, ni du cryptage. Il ne s'amuse pas à perdre le spectateur. Il s'amuse à le capturer. C'est pas du tout la même chose.
Une très jolie formule qui me permet de vous attirer vers une nouvelle écoute. Je vous propose d'écouter enfin un dernier extrait du texte d'Elifort, si beau, suivi d'une archive où l'on entend le célèbre critique d'art Jean Cassou en 49 nous parler du génie de Velázquez et de ses ménines. Donc Elifort, puis Jean Cassou.
Les toiles d'intérieur de Velázquez prolongent la salle. Ses tableaux de plein air enfoncent le mur de la salle. Le personnage tout entier, les accessoires, le paysage, toute la toile est dans la toile. Jamais la scène ne sort de la toile, jamais elle ne s'étale sur elle. Elle est toujours à sa distance. Elle est entourée d'air de tous côtés. Celui qui la regarde est amené vers elle par une route d'air qui ne s'interrompt pas. Entre la surface du tableau et l'air qui la vient caresser, il n'y a pas de séparation. C'est le même air qui continue, l'air que respirent les vivants. Ainsi, les formes représentées se mêlent aux formes vivantes, sans qu'apparaisse le moment où l'intervalle se produit. « Où donc est le tableau ?» demande Théophile Gautier devant les Ménines. En surface et en profondeur, on ne sait pas où la fiction commence, où finit la réalité. Velázquez, Elifort, 1903.
Cet instant résume toute la peinture. Cet instant s'est arrêté dans le plus complet chef-d'œuvre de l'art universel. Tout ce que peut faire et dire la peinture est là. L'espace, l'air, la lumière, la composition des personnages et des lieux, le mouvement, le geste, des robes, des rubans, un chien, la vie, la géométrie, l'atmosphère, le dessin, la couleur. Et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, l'acte de peindre lui-même et le peintre. Tout est là, la peinture, et la présence, et le visage, et la main, et la signature de celui qui fait la peinture. Velázquez, le plus peintre des peintres, ai-je dit. Oui, il a peint en peintre qui n'est que peintre, mais qui est cela de la façon la plus totale. Son point de vue se situe derrière la toile, l'immense toile où tout vient s'enregistrer selon les lois de la souveraine justice optique. Tout et tous, les princes et leurs bouffons et leurs ministres et leurs costumes, les fous de la cour et les chevaux des infants, les fileuses qui filent, les ivrognes qui boivent, les mendiants, les gueux qui sont des philosophes et les rois qui sont des idiots, et l'ombre de ces idiots qui s'allonge à leurs pieds dans la nudité de l'espace plastique et qui est un effet de la lumière céleste.
Nous écoutions Jean Cassou, après Elifort, nous parler de la Vénus au miroir de Velázquez que nous commentons en ce moment avec Jean-Michel Alberola et Guillaume Kienz, le commissaire de l'exposition du Grand Palais. Jean-Michel Alberola, on entendait cette énumération de Jean Cassou. Tout est là, tout est dit, la main, la peinture, le rideau, la toile, la femme. Quelle énumération ! Tout est là ?
Oui, mais...
Est-ce que vous pensez que quand Manet a vu Velázquez, il a trouvé que tout était là? Par exemple, quand on voit le bar aux Folies Bergères de Manet, on a des distorsions de miroir, un petit peu comme on l'a là. On a des machines optiques, un petit peu comme on les a parfois aussi.
Non, je crois que ce que Manet a vu chez Velázquez, c'est... en général, les peintres, on regarde toujours comment c'est peint. Et donc, quand on va voir l'exposition de Velázquez, si on regarde comment c'est peint, on voit que c'est une peinture qui est très, très rapide, d'une virtuosité assez étonnante, quoi. Et en même temps, il y a une adéquation totale entre ce que Velázquez voit et ce qu'il est la représentation, et sa représentation. Donc, c'est-à-dire que quand il peint les mains... Les mains, les regards, les coups, etc., etc. Ça va très très vite. Et quand on compare Velázquez avec son beau-fils, etc., on voit bien que les proportions ne vont pas chez le beau-fils. C'est pas bon, quoi. Tandis que Velázquez, la taille de chaque membre, la place des yeux, etc., etc., c'est d'une justesse. Moi, je me demande comment il fait, quoi. C'est du côté de la photographie, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que c'est, quoi. Et c'est tout est très bien placé, très bien représenté, avec très peu de couches de peinture. Ça va très vite. Et quelquefois, même dans l'exposition, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est la façon dont on comprend les temps d'exécution. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux qui sont faits très rapidement, qui sont laissés. Et d'autres tableaux sur lesquels il revient et qui sont poussés beaucoup plus loin. Et donc, c'est une autre question de la peinture, tout d'un coup, qui se joue devant nous, dans le petit portrait de l'infante, là, qui est le tout petit...
Marie-Thérèse avec ses papillons
et cheveux. Voilà. Donc, le visage de Marie-Thérèse n'est pas du tout le même que les autres qu'on a vus avant. Il y a tout d'un coup, on a l'impression que Velázquez a eu plus de temps pour pousser l'histoire du portrait de Marie-Thérèse. Donc, il y a des registres d'exécution différents. Et ça, c'est quand même assez étonnant, quoi.
Mais par exemple, dans la Vénus au miroir, moi, j'étais assez frappé de voir la façon dont est peint magnifiquement, mais avec une rapidité extraordinaire, les bords de tous les tissus, qui tout d'un coup, le trait du pinceau se détache du tissu et devient presque autonome, ouais. Et passe par-dessus le pied de l'enfant. Donc il y a une grande liberté avec un réalisme merveilleux aussi.
Et puis, il y a aussi une chose qui est très étrange, c'est la place de l'informe à l'intérieur des tableaux de Velázquez. C'est-à-dire qu'il y a ils ont des mouchoirs, il y a des morceaux d'armure, tout ça, tout d'un coup, sont des formes, on n'arrive pas à les identifier. Il y a des choses comme s'il y avait des fantômes de formes à l'intérieur des tableaux de Velázquez, à côté de ce réalisme très, très aigu.
C'est très juste, ça m'avait jamais effleuré, mais effectivement, l'informe est... Et sans cesse, y compris les hanches de la Vénus, au fond, qui est presque le point central de ce tableau, au fond, elles sont informes. Le grand mouchoir que tient la reine Marianne est une espèce de chaos dans un environnement ordonnancé, d'une certaine manière. C'est comme s'il y avait une brèche vers quelque chose d'autre, qui est difficile à définir, mais qu'on voit effectivement dans énormément de tableaux. Comment est-ce que d'un coup un pied ne va pas être terminé, enfin, c'est pas qu'il va pas être terminé, c'est qu'il va être brossé, qu'il va ressembler à quelque chose qui n'est pas un pied, et pourtant tout le monde va voir un pied.
C'est ce que va prendre Manet, ça.
Ça, c'est ce que va prendre Manet. Par exemple, le rapport main droite, main droite, main gauche, chez Manet, c'est tout à fait ça.
Une
main
finie, une pas finie. Elle est indiquée, quoi.
Et dans le même tableau, une main très très bien exécutée et l'autre qui garde sa sauvagerie d'une certaine façon.
C'est ce que va comprendre donc Manet. Il va chercher la façon dont c'est peint, quoi. Tout le temps. C'est ça. C'est ce qu'il va apprendre chez Velázquez.
Je crois effectivement qu'on dit que Manet a dit Velázquez le peintre des peintres, donc on a traduit ça par Velázquez est le plus grand des peintres. Mais je pense que tout à fait juste ce que vous dites, c'est que Velázquez n'est pas le plus grand des peintres. Enfin, si, le plus grand des peintres, mais peintre des peintres, ça veut surtout dire que c'est le peintre peintre. C'est le peintre de la peinture, c'est le peintre peintre. Moi, je pense qu'il faut enlever le D.
Jean-Michel Berolin, oui.
Mais c'est quand on regarde les tableaux de près, quoi. Je sais pas, tous les portraits, les portraits en pied, etc. Donc, les tableaux les plus simples, la façon dont c'est exécuté, c'est assez troublant, quoi. Il y a quelque chose qui est très troublant. Parce que quand on voit, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé à l'exposition, c'est que dans le portrait de Marie-Thérèse, le petit portrait là, on va dire que Velázquez est au maximum de ce que peut la représentation. C'est lui qui va pousser, disons, le bouchon le plus loin, quoi, de ce que peut quelqu'un qui essaie de représenter quoi que ce soit. Donc il est au maximum.
En mettant le moins possible, il est sans cesse sur la ligne de rupture. Entre effectivement aller au bout des potentialités de ce que c'est que représenter et sans représenter.
C'est exactement ce qui se passe avec le portrait de Marie-Thérèse, c'est que ce n'est pas. Il y avait des personnes qui parlaient comme ça, on a l'impression qu'elles nous regardent, tout ça. C'est pas Marie-Thérèse qui nous regarde, c'est la représentation, c'est le tableau de Marie-Thérèse qui fait cette acuité, quoi. C'est ce que peut la peinture, quoi. C'est ce que peut la peinture.
Alors, il y a un point qui a été souvent relevé dans la façon de peindre de Velázquez, c'est la façon dont il fait surgir le tableau vers l'avant. C'est-à-dire, tout à l'heure, on remarquait que Velázquez peignait peu la profondeur des paysages, sauf après son premier voyage à Rome. Et par contre, on a la sensation que la cruche du livreur d'eau, ou bien que les anges de cette Vénus, ou bien que à chaque fois la chose sort complètement. C'est l'espace de devant qui semble être occupé par le tableau Guillaume Kenz, non ?
Moi, je pense que c'est très vrai pour ses débuts à Séville, parce que c'est les avancées de la recherche récentes qui me permettent de pousser la réflexion à ce point-là. Je pense qu'il était tout à fait conditionné par la sculpture de son temps. Il pratiquait la polychromie de sculpture quand il était dans l'atelier de Pacheco, c'était l'usage. Et la sculpture dans une niche d'un retable ou les compartiments dans un retable, ça va vers l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. D'où son désintérêt pour les fonds au départ, parce que ce n'est pas dans son univers mental. Si
parce
je puis
que
dire.
C'est dans l'enseignement normal d'un artiste de cette période de travailler, d'être peintre de sculpture au début de sa carrière.
C'est pas dans l'enseignement normal, c'est que les sculpteurs, c'est de la sculpture sur bois en Espagne, n'avaient pas le droit de peindre. Donc ils devaient s'associer à des ateliers de peinture pour la polychromie des sculptures. Et les ateliers, Pacheco, était réputé pour les polychromies.
Pacheco était, je le rappelle à nos auditeurs, c'était le professeur, le maître de Velázquez, mais aussi ensuite son beau-père.
Tout à fait. Et donc Velázquez, dans l'atelier de Pacheco, puisqu'évidemment c'est un travail qui est moins noble que de faire un tableau de chevalet, dans l'atelier de Pacheco, il a mis la main à la sculpture. Il a mis la main à la polychromie. Donc, sa première conception de la forme est une conception qui est passée par le truchement de ce rapport physique avec la forme sculptée. Et cette forme sculptée, elle arrive vers le spectateur. Et c'est très, très net dans ses débuts à Séville. Ça s'inverse après, pour moi, c'est les fonds qui s'ouvrent chez Velázquez. C'est l'air qui arrive et qui
balaye tout. Exploser.
Y compris, regardez les Ménines, il n'arrive pas à les fermer. Les Ménines, il laisse la porte ouverte encore. Il ne ferme plus les fonds.
Jean-Michel Berolin, vous qui aimez bien la peinture espagnole, y compris du XXe siècle, je pense à Picasso et à Dali. Qu'est-ce que Dali va chercher chez Velázquez qu'il admirait tant, ou Picasso d'ailleurs ?
Il fait un classement au niveau technique. Il dit numéro 1 Velázquez, deuxième Vermeer. Moi, ce qui intéressait Dalí, c'était quand même la technique, quoi. De toute façon, les peintres posent des questions de technique. Comment c'est peint, quoi. Si on aime bien Vuillard ou si on aime bien Poussin, c'est comment c'est peint, quoi. Donc, Picasso, non. Picasso aimait bien Velázquez parce qu'il était espagnol, mais c'est un autre problème, Picasso. C'est un autre problème. Mais, Dalí, c'est ça. C'est question de technique. D'abord. Après, on peut faire ce qu'on veut.
Et pour vous, Velázquez, c'est un artiste important pour un artiste du XXIe siècle comme vous?
C'est le maximum. Pour moi, Velázquez répond à toutes les questions que je me suis posées, que je me pose toujours. Des questions qui tournent autour de ta représentation, y compris la représentation mentale. Mais c'est une question de... Ouais. Pour moi, il n'y a pas mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Mais j'ai tendance à expliquer maintenant Velázquez plus en le reliant à des cinéastes. Mettons, si on veut bien comprendre comment est la frontalité de Velázquez, il faut penser à John Ford. Si on veut comprendre, mettons, parce que John Ford, c'est frontalité absolue, le paysage très simple, comme ça, devant le ciel, les fonds, il y a l'air qui circule, etc. Si on veut penser, mettons, à la représentation des personnages, comme il n'y a pas de hiérarchie, que ce soit les rois, etc., c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les rois, les mendiants, les ivrognes, etc. On voit bien, il y a un truc qui est très, très beau, c'est les deux portraits, le géographe et puis le l'ivrogne, qui sont la même personne.
C'est la même personne. Guillaume Ken, c'est le même modèle qui a servi aux deux.
C'est vraisemblablement le même modèle. C'est une réponse. Velázquez peint d'abord un buveur, un ivrogne, et il va transformer cet ivrogne en Démocrite. Il va repeindre par-dessus son tableau parce qu'il répond à Rubens.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est deux façons de connaître le monde, l'hallucination de l'ivrogne et celle du savant?
Je ne sais pas. Ça dépend si on a l'alcool gay ou l'alcool triste. On peut se mettre à rire comme Démocrite après avoir bu le vin de l'ivrogne. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Démocrite, c'est celui qui se moque de la folie des hommes. Et ce modèle était certainement un bouffon de la cour. Les bouffons avaient, pour justement contrecarrer cette étiquette extrêmement fermée de la cour d'Espagne, avaient pour mission de tancer les grands, de se moquer de leur ridicule. Donc il y a certainement un lien.
Mais juste Jean-Michel Alberola, une dernière phrase.
Mais c'était le juste pour comprendre un peu ce qu'a pu faire Velázquez. On peut le trouver donc dans le cinéma avec Ford ou Pasolini, ou plus loin les strobes, mettons. Et puis en photographie, on le trouve avec Walker Evans ou Adjet, quoi. C'est la même chose, c'est les mêmes problèmes.
Donc Velázquez, toujours fécond pour la création d'aujourd'hui et du XXe siècle, bien entendu, regardé par tous les artistes, l'artiste des autres artistes. Merci beaucoup Jean-Michel Alberola de nous avoir accompagnés pour regarder cette Vénus au miroir et toutes les autres œuvres de Velázquez. Guillaume Kienz, merci infiniment et bravo pour cette exposition absolument sensationnelle et d'une importance considérable.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé un tableau de Velázquez et parlé de beaucoup d'autres. La Vénus au miroir, réalisée entre 1647 et 1551, conservée à la National Gallery de Londres et que vous pouvez voir en ce moment au sein de l'exposition consacrée à Velázquez aux Galeries Nationales du Grand Palais à Paris. Et ce, jusqu'au 13 juillet 2015. Je vous signale également la réédition du très beau texte d'Élie Faure sur Velázquez aux éditions des Équateurs, collection parallèle. Le très beau livre de Guillaume Kienz que nous venons d'écouter, Velázquez, l'affrontement de la peinture, chez Cohen et Cohen. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet, Sylvia Favre. Lecture des textes, Sophie Haute-Picon. À la technique, Jean-Michel Coquille. Merci Jean-Michel. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy. Et, comme toujours, Sandra Adam. Et tout de suite, vous retrouvez Michel Simon avec Projection Privée.
Go until you come. come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go.